Ensemble, nous interrogeons ce qui demeure quand les souvenirs disparaissent. Les gestes, les émotions, le lien aux proches. Créé en 2005 par des familles de personnes malades, France Alzheimer Mayenne a pour mission de soutenir les personnes atteintes et leurs proches, d'informer l'opinion et les pouvoirs publics, de contribuer à la recherche et de former les professionnels, aidants proches et bénévoles. Fabricante de liens, elle propose de nombreux ateliers pour les personnes malades, mais aussi pour leurs aidants. Art-thérapie, chant, café, mémoire, dessin.
On parle d'Alzheimer, une maladie qui touche la mémoire, mais pas seulement, une maladie qui bouleverse aussi les familles et qui nous interroge sur ce qui reste quand les souvenirs s'effacent. Pour en parler avec nous, je le disais, j'ai le plaisir de vous avoir avec nous tous les deux. Paul Chouanet, vous êtes le président de l'association France Alzheimer Mayenne. À vos côtés se trouve Monique Chevalier-Martin. Peut-être pour recontextualiser, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle de l'association sur le territoire ?
Oui, donc notre association est une association de familles et de personnes malades à l'échelle de l'ensemble du département de la Mayenne. Et nous appartenons à une fédération qui regroupe les... Il y a une association par département en France et en Outre-mer et dans les départements d'Outre-mer, en fait. Et donc, la maladie d'Alzheimer, ce qui la caractérise, si vous voulez, c'est une maladie de la relation. Parce que la personne elle-même, elle oublie, et donc les oublis, ça crée des difficultés de vie quotidienne, et puis relation avec elle-même, relation avec ses proches, et surtout aussi relation avec le monde extérieur, social, etc. Et puis cette pathologie, quand elle progresse dans le cerveau, elle va petit à petit désadapter la personne de sa vie quotidienne. Je ne sais plus comment j'enfile mon vêtement, ou je ne sais plus comment je fais ma cuisine, ou je ne sais plus comment je range mes affaires. Et donc, associer la perte de la relation et la perte de l'adaptation à notre vie quotidienne, ça complique beaucoup la vie, y compris donc pour le proche, hein, qui est parfois avec la personne, hein, lorsque les personnes vivent encore en couple. Par contre, ce qui demeure tout le temps, c'est que ce qui a été rangé dans le cerveau avant d'être malade, est toujours présent. Toujours, toujours présent. Les sentiments, l'histoire de vie, le métier, le contenu, la famille, tous les rôles de la vie en termes d'éducateur de ses propres enfants, en termes d'épouse, de mère, en termes de parents, de citoyens, tout ça, le travail, tout ça demeure dans son cerveau. Et donc s'il y a une écoute suffisante, des capacités d'offre sensorielle, hein, parce que la personne, elle n'arrive plus à élaborer des pensées. Mais elle va vivre avec tous ses sens. Donc elle entend, elle voit, elle touche ce que vous avez évoqué en introduction. Elle perçoit ce qui se passe et à partir de là, elle va continuer d'échanger, de vivre.
C'est à partir de cela peut-être qu'on construit un accompagnement. C'est aussi là-dessus que France Alzheimer construit peut-être ses propositions sur le territoire.
Oui, avec différentes offres, hein, évidemment. Alors, nous, on a des offres envers les personnes malades pour réentraîner la mémoire, mais aussi, pour, comme on l'a dit tout à l'heure, en sensoriel, avec de l'art-thérapie, donc tout ce qui est manipulation, création, avec aussi de la musique, hein, qui est donc là aussi du sensoriel fort, et de la danse, etc. Et il y a aussi des activités telles que des activités physiques. On va reparler du tennis de table. Hein. Aujourd'hui, la recherche a démontré tout le grand intérêt du tennis de table pour ces personnes. Et puis, on a aussi des activités avec les aidants, de soutien, de rencontres, pour essayer de dépasser le « simplement prenez soin de vous, ne vous oubliez pas », parce que c'est toujours ce qu'on entend et ce qu'on dit lorsqu'on est aidant. Et on essaie de faire une offre un peu différente pour sortir de ça et passer au « comment faire ». Parce que les aidants souffrent surtout de travail physique important, de travail mental, qui va aussi entraîner des fatigues. Et là, on a des offres spécifiques autour de ça, telles que par exemple la sophro-relaxation, telles aussi que des épisodes de festifs, de liens sociaux, qui vont permettre en fait de vivre.
La question que l'on pose aujourd'hui, c'est que reste-t-il quand la mémoire s'efface ? On peut insister sur effectivement la disparition du souvenir, mais malgré tout la présence. La présence, enfin, de certains souvenirs, d'une partie de la mémoire. Peut-être qu'on peut redéfinir justement, parce que je sens que je manque de précision. Paul, je vous vois tiquer un petit peu.
Non. Mais je vous dis, la personne, elle ne va plus arriver à stocker dans sa mémoire les événements de vie, sauf des événements fortement connotés émotionnellement. Hein, la naissance d'un petit-fils, d'un arrière-petit-fils, le mariage, etc. Le décès aussi d'un frère ou d'une sœur à leur âge, hein, c'est possible. Et donc, ces mécanismes-là risquent encore d'être stockés, mais la personne, elle ne va plus mettre dans sa mémoire, lorsqu'elle est malade, les souvenirs. Par contre, tout ce qui a été rangé avant, et c'est encore dedans. Mais elle, toute seule, elle n'arrive plus à les rappeler. Elle a besoin d'un tiers pour arriver à se rappeler qui elle était au niveau de son identité propre et de sa vie. Et donc, c'est un peu le rôle, nous, en termes d'association, de faire des formations, des parcours auprès des familles et des aidants pour, justement, favoriser ces mécanismes de maintien des capacités relationnelles et des maintiens de la personne comme sujet de son existence, en fait. Qu'elle soit encore existante à travers tout ce qu'elle a été. Parce qu'aujourd'hui, elle a du mal, toute seule, à le rendre et à le restituer, parce que c'est un peu ce que dans notre vie quotidienne on discute, hein. On rencontre un ami, on parle de ce qu'on a fait ensemble, on rencontre quelqu'un d'autre, on parle de ce qu'on a vécu ensemble, et elle ne peut plus faire ça s'il n'y a pas un processus relationnel particulier qui va l'aider à le faire.
C'est la réinvention d'un certain langage, Monique. La parole se fragilise, mais d'autres langages apparaissent, le corps, le regard, le toucher. On en a dit un petit peu quelques mots, quelle place accordez-vous à ces formes de communication quand on est confronté à la maladie?
Alors, quand son proche perd sa parole, il lui reste encore plein d'autres moyens de communiquer. Le regard est quelque chose d'essentiel, et le sourire, et le toucher. Tenir la main du malade qu'on a côtoyé, qu'on continue de côtoyer, il se passe plein de choses. Et le regard, les sourires, c'est un autre mode de communication. Et dans l'importance de ce que disait Paul tout à l'heure, c'est on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont stockées dans la mémoire. Et celui qui accompagne, qui a partagé toujours ses moments de vie, il sait aussi les faire ressortir. Et du coup, la personne revit un peu ces choses-là. Enfin, pas consciemment forcément, mais le vécu il est là, et l'accompagnement étant là, il est essentiel. Et il est essentiel aussi que l'accompagnant ne soit pas seul à porter tout ça.
C'est ça, c'est important de rappeler effectivement que la maladie bouleverse aussi les familles. Il y a des grandes difficultés par étapes, même que rencontrent l'aidant au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Est-ce qu'on peut rappeler ces difficultés auxquelles les aidants sont confrontés le plus? Peut-être est-ce qu'il y a des particularités en Mayenne, même dans l'accompagnement, dans ce qui est proposé?
Alors l'accompagnement, il est essentiel, hein, accompagnant de l'aidant et de l'aider. Et je dirais, c'est aussi de soutenir tout le temps l'aidant dans le fait qu'il doit toujours s'adapter à de nouveaux comportements et toujours aussi lui puiser dans ses souvenirs et dans le vécu qu'il a eu avec la personne et être accompagné aussi dans tout ça. D'où l'importance aussi que l'aidant puisse bénéficier du soutien de professionnels et de bénévoles d'associations comme France Alzheimer Mayenne. Donc il est essentiel d'être soutenu tout le temps dans ce parcours-là, parce qu'on sait que la maladie isole, mais pas seulement cette maladie-là, mais beaucoup d'autres, mais celle-là encore plus particulièrement. Et donc ne pas rester isolé, pas seul, quoi. Apporter tout ce qu'il faut porter, quoi, en tant qu'aidant.
Parce que l'isolement est aussi lié au discours. Hein, la personne n'a plus de discours parce que son cerveau ne génère pas d'idées nouvelles. Et donc, elle est plutôt dans un processus de ritualisation ou de gestes ou de mouvements. Et ne générant pas d'idées nouvelles, tout dialogue est compliqué. Beaucoup d'aidants, en fait, ont une souffrance importante de pas parler ou de parler très peu ou de parler seul. Et ça, c'est une vraie souffrance psychologique lorsque l'on est comme ça. Il y a la présence de quelqu'un, mais le dialogue est difficile. Et alors qu'on peut malgré tout utiliser le dialogue parce que la personne elle entend encore, on peut utiliser lui montrer parce qu'elle voit encore, on peut l'emmener se promener parce qu'elle marche encore, on peut lui faire ressentir, voyez, des choses parce que la personne elle vit non plus dans une relation telle qu'on la vit nous, mais elle vit surtout uniquement dans un ressenti. Elle voit une voiture, elle va ressentir la vision de cette voiture sous différentes différentes formes. Reconnaître que ça peut être, que ça peut être une de ses voitures, mais que ça peut aussi ne jamais lui dire quelque chose, ou ça va lui évoquer simplement la couleur, ou ça va lui évoquer simplement l'avant, l'arrière, peu importe. Mais elle vit dans, uniquement du perceptif, ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle touche. Et donc ce mécanisme-là est difficile au niveau d'un permanent quotidien.
C'est une perception qui, effectivement, des choses, de l'environnement qui évolue. Et pour le proche aidant, il y a aussi des étapes d'acceptation, j'imagine. Quand on est confronté à un diagnostic, c'est pas si évident que ça, d'accepter que son proche va changer, que le rapport avec ce proche va évoluer.
Il est en effet très difficile pour un aidant de cheminer justement à côté de son proche qui est en train de développer cette fichue maladie. Et c'est vrai que le fait de pouvoir poser le diagnostic, c'est déjà une première étape. Alors, le diagnostic étant posé, ben, il y a aussi l'étape suivante, c'est de l'acceptation de la maladie, même s'il y avait des signes, bien sûr. Mais il faut cette étape-là, et ensuite accepter que je ne peux pas rester tout seul avec tout ça. Je reviens de nouveau sur l'aide, le soutien à l'aidant. Et à l'aider. Je dis toujours les deux. C'est important que les deux soient soutenus parce que il faut continuer de cheminer avec de nouvelles embûches.
Quelles sont continuer. Allez-y, Paul. Ouais.
Après le diagnostic, le jour du diagnostic, c'est pas un lundi à 15h qui va bouleverser la vie, si vous voulez. Mais c'est l'annonce que l'on reçoit. Et cette annonce que l'on reçoit, il y a besoin de la digérer, de l'avaler. Hein, c'est compliqué. Et donc, pour arriver petit à petit au fil des jours, à se dire, qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Il y a d'autres maladies qui peuvent nous tomber sur la tête, hein, mais qui n'ont pas la même image dans la société, ou le même pronostic aussi, ou les mêmes capacités de guérison. Et donc, avec les maladies neuroévolutives, il y en a un, tel qu'une maladie de Parkinson, ou il y a la sclérose en plaques, il y a d'autres maladies évolutives aussi, qui n'ont pas directement de traitement pour les enlever. Et donc, la question, c'est se dire, qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Et le « nous », c'est à la fois le conjoint, la conjointe, les enfants, la personne malade elle-même, mais les amis, c'est-à-dire que cette démarche-là, elle est compliquée parce qu'elle nous met en difficulté avec cette personne qui est en difficulté relationnellement et qui petit à petit se désadapte. Elle nous met en difficulté parce que les amis, ils ont tendance à moins venir, ou on a moins de coups de téléphone. Nous-mêmes aussi, par rapport au risque de ce que la personne peut dire ou faire, on va peut-être hésiter à aller à tel ou tel endroit ou sortir, etc. Donc il y a un processus d'isolement social qui est encore accentué plus s'il est aussi géographique. C'est-à-dire si on est là où on habite, ça dépend. Et donc ce mécanisme-là va mettre en souffrance et avoir des répercussions au quotidien, c'est-à-dire sur comment je continue d'avoir plaisir à cuisiner, d'avoir plaisir à vivre là où je suis, d'avoir plaisir à... Et puis d'autres inconvénients qui vont... je me retrouve avec plus de tâches à faire moi-même parce qu'il y a quelqu'un qui participe moins. Je me retrouve parfois à être réveillé la nuit parce que la personne, elle aussi, elle a des troubles autour du réveil ou du sommeil ou de réendormissement. Enfin, vous voyez, ça bouleverse complètement et il y a besoin là d'avoir des professionnels et d'avoir des associations pour dire je vais aller voir ce qu'on va faire avec ça.
Vous l'avez dit, l'association France Alzheimer ou France Alzheimer Mayenne est une association de famille. C'est important aussi de se croiser, d'échanger entre personnes qui vivent cette maladie, qui y sont confrontées. Il faut se dire aussi qu'en fait, d'une personne à une autre, on n'a pas exactement les mêmes symptômes, si on peut dire.
Bien sûr, les caractéristiques diffèrent d'un malade à l'autre. Pareil, le vécu du proche diffère aussi, selon les familles, bien entendu. Mais le fait de se rencontrer, que ce soit des groupes de parole, que ce soit autour des activités proposées aux aidants ou aux aidés, il y a des échanges très riches et c'est très soutenant pour les aidants de pouvoir partager même des choses du quotidien, du banal ou du moins banal, mais le fait de pouvoir échanger, c'est très enrichissant et c'est soutenant. c'est soutenant pour tous. Et on sait que les aidants le soulignent. Hein. Tout à l'heure, vous parliez aussi du ping-pong autour de, justement, pour aider tous ces malades. Mais les conjoints ou les aidants qui ne participent pas forcément à l'activité sont là quand même. Et il y a un échange entre eux, entre les aidants et les aidés, tout ça.
Il ne faut pas hésiter à passer le pas de la porte, à téléphoner, en tout cas prendre des informations, essayer, tenter et voir s'il y a des choses, si on trouve un écho à notre histoire. Paul, ouais. Vous proposez avec l'association différents rendez-vous prochainement pour parler de cette maladie, pour la mettre en avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
On a tendance à profiter un peu de la semaine mondiale, hein, tout entière. Donc, on a proposé cette année, en fait, de faire des ciné-débats à travers tout le département de la Mayenne autour d'un film qui s'appelle Les Esprits Libres. Donc, on voit bien déjà dans le titre, ce sont des personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer et qui, dans un établissement, partent en stage de théâtre, en fait, mais pendant 15 jours dans un lieu différent de leur établissement avec les soignants qui s'occupaient d'eux. Et là, il y a un autre mode de vie qui s'installe et qui se passe et qui décrit parfaitement, en fait, les ressources des personnes, parce que les ressources des personnes, elles sont capables d'élaborer un spectacle et des scénettes malgré tous leurs troubles et tout ce qui se passe. Et donc, on a fait ça hier soir déjà au Vox à Mayenne. Donc, ce soir, au Bourgneuf-la-Forêt, à 20h30, hein, c'est au cinéma Le Trianon. Demain soir, 18, au Cinéville à Laval, à 20h. Ensuite, nous avons le 23 septembre à Renazé, à 20h, au cinéma Le Vox. Et le 25 septembre à 20h30 à Évron, au cinéma Yves Robert. Et puis le 9 octobre, au Palace à Château-Gontier, là aussi, donc à 20h. C'est pour, après le film, faire un débat. L'entrée du film est gratuite, donc les personnes peuvent venir assister au film et passer en fait un moment. Alors c'est vrai que c'est le soir, mais c'est pour qu'il y ait aussi une ouverture possible aux familles, aux proches qui parfois travaillent et qui parfois ne peuvent pas se libérer dans l'après-midi, et donc on est plutôt sur des séances du soir. Et parfois, par contre, ça pose une difficulté pour une personne malade et son proche aidant qui a plus de difficultés à sortir en soirée, ce qu'on peut comprendre avec les rythmes qu'impose la maladie.
Si on veut vous contacter en dehors de ces rendez-vous, si l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute il ressent le besoin, se dit tiens, où est-ce que ça se passe?
Oui, donc on est installé dans deux endroits en Mayenne, à la Maison des Associations à Laval, dans le quartier Ferrier. Et donc là, on a un local. Et hein, autrement, il y a aussi un site internet, hein, francealzheimer.org/mayenne, pour permettre de découvrir l'ensemble de toutes nos activités. Et puis, il y a aussi donc des réunions. Hein. Nous faisons des réunions dans chaque EPCI, hein, ex-communauté de communes du département. En 2025, par exemple, on va faire 55 réunions à travers tout le département, pour les proches, en mettant ça dans les journaux, en mettant ça pour permettre aux personnes de venir, comme on le disait tout à l'heure, hein, sortir de son isolement, rencontrer d'autres personnes, voir comment les autres s'en sortent ou font, parce que c'est surtout du partage et de la ressource, en fait. Hein. Et donc, voilà, autrement, on a un mail qui est le contact53@francealzheimer.org.